It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.
Bienvenue au podcast de 24 images. On a une dernière émission pour vous cette année. C'est la conclusion de l'année 2019. C'est aussi la conclusion de l'année 2010. Et pour l'occasion, on a rassemblé une équipe un peu plus élargie qu'à l'habitude au podcast de 24 images. Mais à ma gauche se trouve évidemment Bruno Dequin, rédacteur en chef de la revue. Bonjour Bruno.
Salut Alexandre.
Et puis j'introduirai les gens qui participent à cette émission-là au fur et à mesure de l'émission. Mais pour le moment, Bruno, j'aimerais qu'on parle un peu de ce nouveau numéro de 24 images qui vient pas mal tout juste de débarquer en kiosque et dans les boîtes aux lettres.
Qui devrait y être dans
bientôt,
quelques jours,
ça,
en
exactement.
Tout cas,
comme un cadeau des fêtes, c'est ça. Donc, un numéro qui se nomme tout simplement Le cinéma des années 2010. C'est sûr que la raison d'être d'un numéro comme ça à la fin d'une décennie, ça va de soi. Mais en même temps, j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu de la vision que tu avais, comment tu voulais un peu te distinguer, par exemple, des rétrospectives en général qui se sont accumulées au cours des derniers mois. Comment tu voulais amener ça ailleurs, peut-être, pour la revue?
Je pense que ce qu'on fait à chaque fois, quand il y a un numéro bilan comme ça, numéro bilan d'année, bilan de décennie, le premier truc qu'on fait la plupart du temps, c'est les tops. C'est ce qu'on voit beaucoup là en ce moment. Mm-hmm. Donc, suffit d'aller sur Internet, on peut voir des tops 200 de la décennie, des tops 100 de la décennie, des tops 50 de la décennie. Donc déjà, le point de départ, c'était on ne fera pas de top. Donc comme ça, au moins, on règle ce problème-là. On n'a pas fait de top de décennie, on préférait plutôt mélanger deux choses, en fait. C'était à la fois essayer de tracer des grandes tendances, ce qui n'est jamais si facile que ça à faire, en fait. Et dans un deuxième temps, mettre de l'avant des films ou mettre de l'avant des démarches, mais de façon un petit peu différente. Mettre de l'avant des cinéastes aussi, pas uniquement parler de certains grands cinéastes, parler des découvertes, ce genre de choses. Donc, pour simplifier le numéro, on l'a scindé en deux parties. Il y a une partie qui est axée justement sur ces grandes tendances. Il y a les tendances qui sont de nature plus industrielle, donc tout ce qui est relié à la distribution. Est-ce que la distribution a évolué depuis 2010? Certainement. On parle de Netflix depuis des années, mais c'est juste la petite cerise sur le gâteau d'une évolution de tout ce qui est diffusion de cinéma depuis 10 ans, qui a énormément changé quand même, mine de rien. Il y a aussi des tendances qui sont plus de nature thématique, donc les films qui ont des visées un peu catastrophiques, ou est-ce qu'il y a une montée du cinéma de genre, est-ce qu'il y a ce genre de choses. Donc ça, on a plusieurs textes là-dessus dans le numéro, et par la suite, on a toute une deuxième partie qu'on a séparé en plusieurs segments. Donc un segment qui était les découvertes, les cinéastes découvertes de l'année. Donc parfois ça peut être des cinéastes qui avaient déjà fait quelques films avant, mais qui n'avaient pas encore vraiment explosé. Donc ça, on a je me rappelle plus exactement, une vingtaine de cinéastes, peut-être une trentaine, qu'on a découvert. Il y a aussi quelque chose qu'on trouvait intéressant, c'était les plans de la décennie.
Oui, ça c'est quand même une particularité du numéro qui me semble particulièrement intéressante à souligner, là, c'est cette approche par plan de la décennie. Ça, je trouve que ça a l'air d'avoir amené aussi les gens à écrire différemment, je pense.
C'était un peu l'idée, je pense, c'était d'essayer d'éviter le top. Le top, c'est amusant à faire, mais en même temps, ça finit toujours par être parfois un peu trop consensuel, surtout sur un truc de décennie, là, où on a vraiment énormément de titres. On finit toujours par... suffit de voir les tops qu'on voit à travers tout l'Internet, là, ils se ressemblent tous un peu, d'ailleurs, que ce soit les tops de fin d'année ou les tops de décennie. Et il y a aussi cette idée de voir comment on peut écrire différemment aussi, et faire ressortir différemment notre rapport au cinéma. Moi, je sais qu'il y a souvent, quand on regarde les films, on se rappelle pas tout le temps du détail de chaque élément de chaque film. Et parfois, il y a des films qui nous marquent énormément, justement pour des petits détails, des plans, des moments, des séquences, des choses comme ça. Et pas nécessairement des films auxquels on adhère dans leur entièreté. Il y a assez peu de films. En tout cas, moi, personnellement, je parle juste pour moi, là, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, il y a beaucoup de films auxquels j'adhère pas totalement, mais qui m'ont vraiment marqué, mais qui m'ont marqué pour des moments, qui m'ont marqué pour certaines choses particulières. Donc c'était ça qu'on essayait de chercher aussi, puis ça nous permettait aussi, je pense, d'écrire différemment. Oui, parce que quand on parle de plan aussi, on va parler un peu plus précisément de mise en scène, on va parler un peu plus précisément de cadrage, d'éclairage, de choses comme ça, ce qu'on a rarement l'occasion de faire lors de textes qui sont plus généraux, là, si on fait un texte sur le cinéma de genre australien depuis 2010. On ne va pas commencer à rentrer dans le détail d'un plan de Mad Max Fury Road. Là. Mais par contre, si on fait un plan précis de Take Shelter ou d'autres films comme ceux qui sont dans ce numéro-là, bah, là, par contre, on peut vraiment rentrer dans le détail. Donc, c'était quelque chose qui était assez intéressant. Mais ce dont je me suis aperçu en faisant le numéro, c'est que c'est vrai qu'on vient de vivre une décennie qui est assez particulière. En fait, elle est assez dure à définir. Finalement, parce que quand on pense à certaines décennies comme les années 70, tout le monde dit ok, les années 70, bon, il y avait le nouvel Hollywood, il y avait vraiment des grands mouvements qui étaient assez évidents, tout comme l'explosion du blockbuster dans les années 80, entre autres, ce genre de choses. Même les années 90 ou même le début des années 2000, il y avait des grands mouvements nationaux qui apparaissaient, du type cinéma roumain, des choses comme ça. 10 dernières années, c'est plus flou.
Mais en même temps, c'est peut-être le recul qui nous permet d'inventer ces grandes tendances-là à une décennie. Je veux dire, je veux pas non plus, mais je pense qu'on n'a
oui
pas nécessairement
non.
toute la distance nécessaire pour dire c'était ça les années 2000, les années 2010.
Bah, moi, je dirais oui et non, en fait. Je pense que oui, en partie, non, dans le sens où ce qu'on a pu percevoir depuis 10 ans, c'était plutôt, en tout cas, de mon point de vue, la consolidation de choses qui étaient déjà là. L'exemple même, c'est quel a été le film le plus consacré de 2019, Parasite, à travers le monde, que ce soit la Palme d'Or, le succès public, critique. Or, Parasite est vraiment l'aboutissement du cinéma de genre coréen qui a émergé au début des années 2000, avec Park Chan-wook, Bong Joon-ho, etc., etc. Et donc, c'est plus une consolidation de quelque chose que vraiment l'émergence de quelque chose de nouveau. L'autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est le fait que, mais ça on le sait depuis des années, le cinéma, du point de vue de sa diffusion, est de plus en plus disparate, dans la mesure où ce à quoi la plupart des spectateurs ont accès en sortie commerciale, c'est un nombre très limité de films, mais vraiment très 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 limité. Il y a tout un pan du cinéma contemporain qui ne vit que par les festivals ou certaines plateformes en ligne. Et forcément, ça devient de plus en plus difficile d'avoir quelque part une vue d'ensemble, à moins vraiment d'être quelqu'un qui est vraiment de l'intérieur, là, quelqu'un qui est une bête de festival, mais également un amateur de cinéma commercial qui regarde une quantité astronomique de films. Il y a de plus en plus de films qui se font, donc forcément, ça complique aussi la donne. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait en sorte que oui, effectivement, on a un peu moins de recul, mais en même temps, on peut observer que c'était la décennie était assez représentative de ça, en fait. Une consolidation à la fois du modèle qu'on a vu émerger dans les années 2000, c'est-à-dire un cinéma commercial où les salles sont monopolisées par le cinéma commercial américain en très, 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 très grande majorité, et un clash entre les cinéphiles qui sont quelque part de plus en plus spécialisés, qui vont dénicher des choses dans les festivals, et ce que on considère entre guillemets le grand public, qui lui, je dirais, à moins d'habiter dans une métropole, d'avoir accès au festival, il y a tout un pan du cinéma
qui lui échappe totalement.
Qui lui échappe totalement. L'exemple typique de ça, c'est pour donner un exemple de ça, c'est Hong Sang-soo. Je trouvais assez représentatif de ça. C'est un cinéaste extrêmement important sur la scène cinéma mondiale. Il fait énormément de films. Aucun de ses films a été distribué au Québec, à peu de choses près. Ses films ne sont diffusés qu'en festival. Donc forcément, si tu n'habites pas dans une métropole ou si tu n'as pas accès à certains trucs, comment tu connaîtrais cette cinématographie-là ? Ce n'est pas si évident que ça. D'autant plus que ses films sont pas non plus si disponibles que ça sur les plateformes les plus évidentes. Donc, parce qu'évidemment, il y a tout un rattrapage qui peut être fait maintenant pour les cinéphiles. Moi, je trouve qu'il y a une disponibilité d'une quantité astronomique de films. Il n'y en a jamais eu autant, en fait. Quelqu'un qui est abonné à Criterion, qui est abonné à Mubi, qui est abonné à Shudder pour le cinéma d'horreur, qui est abonné à toutes ces plateformes-là, a jamais eu accès à autant de contenu. Ça, c'est définitif. Mais après, il y a tout un contenu qui, mine de rien, ne s'y retrouve quand même pas. Et ça joue énormément sur notre perception du cinéma. Parce qu'on a une perception qui est, effectivement, de plus en plus divisée, je crois.
Oui, puis de quelle manière tu dirais que l'année 2019 a peut-être été la, la, la concrétisation d'un parcours de décennie. Est-ce que tu trouves que la 2019 vient clore cette décennie-là d'une manière cohérente, ou est-ce que tu considères plutôt que cette espèce d'éclatement-là fait qu'il n'y a aucune conclusion vraiment à tirer de tout ça? Tu comprends ce que je veux dire?
Oui. Je pense qu'elle le conclut de façon assez évidente. L'exemple de Parasite est un bon exemple de ça. Parasite, pour moi, c'est vraiment la conclusion de la décennie, c'est la conclusion d'une montée progressive d'un certain cinéma de genre de plus en plus politique. Bon, ça, on en reparlera un peu plus tard.
Oui, c'est
qu'il y en a d'autres qui vont en parler, effectivement.
Exactement, on va parler de plusieurs codes figure au cours du podcast.
On vient quand même de voir une année qui se termine sur... alors, certains des films les plus discutés de cette fin d'année sont des films Netflix, que ce soit The Irishman, que ce soit Marriage Story, que ce soit Atlantique de Mati Diop. Il y a aussi le fait que c'est une année où veut pas, ça a confirmé aussi l'importance du Festival de Cannes, par exemple, dans la diffusion du cinéma d'art et d'essai, dans le sens où, encore une fois, c'est le seul festival dont les gens parlent, en dehors des niches spécialisées. Il y a très peu de films d'art et d'essai, ou du cinéma dit d'art et d'essai, hors Cannes, qui a une diffusion par la suite. En dehors de festivals, je parle de festivals spécialisés. Il y a aussi le fait que c'est une année qui se termine sur la très probable, apparemment, vente de Cinéplex à un conglomérat du Royaume-Uni, si j'ai bien compris. Et ça aussi, c'est assez symptomatique. Je veux dire, le modèle des salles ne fonctionne plus. Moi, je pense qu'on arrive à un stade où la salle va devenir très secondaire pour à peu près la grande majorité du cinéma qui se fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle a toujours été la salle et l'endroit privilégié pour regarder, non seulement pour regarder les films, ce qui restera toujours quelque part, parce qu'on sait très bien que voir un film sur grand écran, c'est pas la même chose que de le voir sur un laptop ou quoi que ce soit. Mais ceci étant dit, ça demeurait la principale plateforme de promotion aussi. Et par la suite, on sait bien, les films après étaient en VHS, après ils étaient en DVD, ils étaient sur d'autres. Alors que maintenant, ce qu'on voit, c'est de plus en plus un modèle qui va être, j'ai l'impression, inverse. C'est-à-dire des cinématographies qui vont se développer en ligne via, entre autres, le circuit des festivals. Et la salle va devenir un événementiel, en fait, essentiellement événementiel. Et j'ai l'impression que ça va être de plus en plus ça. Le modèle tel qu'il existe actuellement, on le voit, il est plus valable. Et c'est les plateformes qui prennent de plus en plus de place. Les gens se font leur culture. Et à ce moment-là, la salle devient l'endroit où peut-être tu vas aller rencontrer le cinéaste. Bon, il y a des cas typiques comme les rétrospectives qu'on avait fait cette année. Encore une fois, quelqu'un comme Lav Diaz, c'est pas quelqu'un qui a fait sa réputation via des sorties commerciales. Aucun de ses films a eu des sorties commerciales.
Non, mais on parle quand même d'un cinéaste particulièrement niché. Là, je veux dire, il y a aucune... Lav Diaz, d'une certaine manière, je veux dire, tu peux pas programmer un film de 10 heures dans une salle commerciale conventionnelle. Je veux dire, c'est un cinéaste qui échappe complètement au modèle commercial traditionnel du cinéma.
Oui, mais mettons, si je reprends Aung San Suu, lui, par contre, il pourrait être totalement commercial. C'est des films qui sont pas du tout... opaque ou quoi que ce soit, c'est complètement narratif. Il y en a rarement qui dépassent 1h45. C'est pile poil de la sortie commerciale et pourtant, ça ne sort pas commercialement. Ceci étant dit, je suis persuadé que si quelqu'un fait une rétro Aung San Suu en sa présence à Montréal, il va y avoir du monde là par contre. Mais les gens l'auront découvert via quelques séances, encore une fois, quelques séances en festival et puis et l'internet.
Des trucs comme Mubi ou qui fait des rétros.
Exactement, des trucs comme Mubi, ce genre de choses. Et je pense que ça va être de plus en plus comme ça, en fait. La salle va devenir l'événement. La salle va devenir là où tu vas pour soit aller à une rencontre ou quelque chose comme ça. Mais ce sera plus le on n'est pas encore tout à fait là, hein, mais en tout cas... Je pense qu'on s'en va vers ça.
Bon, ben on va parler de quelques rencontres individuelles avec certains films, avec certains rédacteurs de l'équipe de 24 images. Donc, on va commencer avec Charlotte Bonmatty-Mullins et qui a choisi justement un film de Netflix comme numéro 1 pour l'année 2019, The Irishman de Martin Scorsese. Donc, Charlotte, bonjour.
Bonjour, Alexandre.
Donc, je sais que tu n'es pas la plus grande fan de Martin Scorsese au monde, donc c'est quand même un peu une surprise de devoir mettre au sommet de ton palmarès The Irishman. Peux-tu nous parler un peu de ce choix?
Ben, déjà, je ne suis pas une grande fan de Scorsese. Je ne suis pas une grande fan non plus des top 10 parce que les miens sont toujours mouvants. Puis j'arrive toujours avec 1, 2, 3 ans de retard, comme ça va être le cas pour le film d'Alici, Rock Thatcher, sur lequel je vais revenir en fin de top. Parce que j'ai fait une petite digression. Je me suis dit que les règles étaient là pour être enfreintes.
Absolument.
Donc je vais avoir un petit pop de 2018, Born Again, à 2019.
Parfait. De toute façon, c'est le numéro top de la décennie aussi. Fait que tu as le droit de tricher un peu puis d'amener le restant de la décennie dans ton top. Donc, The Irishman.
Écoute, The Irishman, bon ben, de toute façon, tu vas voir, les trois films dont je vais parler aujourd'hui, ben, quelque part, non seulement ils n'ont rien à voir ensemble, mais c'est aussi des films que j'ai été surprise de voir dans mon top 10. Reste à voir s'ils seront dans mon top de la décennie en 2030.
J'espère que tu vas avoir d'autres choses à fouetter que de faire ton top
nous
de
verrons. Et non, c'est vrai que Scorsese, j'admire beaucoup sa façon de parler du cinéma, de le théoriser, j'aime aussi ce cinéma à l'ancienne, etc. Mmh. Mais dans les faits, c'est pas un cinéma qui me parle plus qu'il faut, dans le sens où j'ai pas l'impression non plus que ce soit un cinéma qui s'adresse à moi. Puisque c'est toujours, c'est un peu le cinéaste de la mafia. Donc c'est toujours dans des milieux extrêmement misogynes, avec des personnages malheureusement de femmes qui oscillent plus souvent qu'autrement entre la mère et la putain. Mmh. Donc c'est sûr qu'on a des personnages assez forts, comme le personnage de Sharon Stone dans Casino, mais en même temps, ça reste malgré tout souvent des victimes ou des dommages collatéraux de ces bons hommes blancs qui ne se perdent jamais de vue, finalement.
Oui, oui, totalement.
Et donc, je suis allée voir The Irishman, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran, et je ne te mentirai pas, c'est-à-dire que si je l'avais vu sur Netflix, je pense que j'aurais arrêté le film et je serais partie.
Là, là.
Puisque c'est un là, film qui, selon moi, sur le moment, s'étirait en longueur et se regardait beaucoup.
Donc l'utilité de la salle est encore prouvée une
flagrante.
Fois. Bon, parfait, tant mieux.
Et en fait, c'est un cinéma que j'ai. En fait, c'est un film que j'ai revu quelque part à la hausse, dans le sens où il m'en est resté quelque chose un peu de l'ordre de la remise en question.
Okay.
C'est-à-dire que là où je trouve que Scorsese a tendance à beaucoup. C'est-à-dire, on dit souvent que c'est un cinéaste qui va mythifier et déboulonner donc les milieux sur lesquels il s'attarde. Ben, je trouvais qu'il mythifiait plus qu'autre chose. C'est encore plus problématique, selon moi, dans un film comme The Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio, puisque bon, ben, quelque part, ben, on ne le voyait pas prendre position. Et même, je pense que le spectateur moyen prenait plaisir et ne voyait pas l'autodérision là-dedans. Donc, pour moi, il y avait un problème de parti pris, alors que là, clairement, son personnage est terriblement décalé. C'est un personnage qui va sombrer dans l'oubli et qui, je pense, ou du moins j'espère, s'en rend compte, en particulier au contact de sa fille. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que The Irishman est un film féministe, loin s'en faut, mais c'est quand même un film qui se rend compte, je pense, de la vacuité de ces petits hommes blancs moyens macho.
Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours eu quelque chose de l'ordre de la remise en question chez Scorsese. Je pense que Raging Bull n'est pas un film qui essaye, par exemple, de glorifier son personnage. Je pense que la masculinité toxique a toujours été un sujet de Scorsese, même si ce mot-là n'était pas nécessairement à la mode. Donc, est-ce que tu dirais qu'il y a un changement de perspective vraiment clair ou que c'est plus peut-être un changement de perspective de la part du public?
Possible que ça ait « shifté » entre guillemets du côté du public, parce que oui, c'est vrai que Raging Bull, là, clairement, il y avait une prise de position par rapport à ce personnage, mais c'est que là, tu as clairement un personnage féminin qui n'est pas non plus dans l'agency, c'est-à-dire que c'est un personnage qui ne parle pas, mais en même temps, c'est un personnage qui révèle aussi tous ces personnages, en particulier le personnage de Joe Pesci. Donc, c'est vraiment comme un personnage qui n'est pas non plus virginal, c'est pas un personnage qui va leur offrir un quelconque pardon, c'est juste un personnage qui se détache de ce milieu-là et qui ne se fait pas broyer par lui. Donc c'est plus, je pense, l'idée qu'il y a un répondant par rapport à ce personnage principal qui est intéressant.
Donc on passe de Scorsese et on s'en va vers un autre des films de ton top, et puis c'est quand même une balle courbe, on va se le dire, Toy Story 4.
Et oui, vous avez bien entendu, Toy Story 4 qui figure dans mon top 5, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, probablement moins marquant, je pense, que le 3. Mais en même temps, c'est pas non plus le film de trop, contrairement à ce que j'appréhendais beaucoup. donc qui poursuit tout ce qui a trait, encore une fois, aux questions existentielles. Donc qu'est-ce que le devenir de ces pauvres jouets, en particulier avec l'irruption de Forky, donc qui est un personnage de Brick et de Brock, une espèce de vieille fourchette fait en deux temps trois mouvements. Et mais je pense que le réel apport, qui est assez contradictoire avec finalement l'ambiance de Pixar, et en particulier de la fameuse polémique entourant Lasseter, c'est
oui,
que tu as quand même un personnage féminin qui vole un peu la vedette. Donc on a beaucoup parlé de Forky, on a beaucoup parlé de la relation, un peu la bromance entre Woody et Buzz, mais là tu as clairement le personnage de la bergère qui fait irruption et qui finit par même comme devenir vecteur de la narration et même du personnage. Et je trouvais ça très, très... Oui, très, très intéressant finalement, très rafraîchissant.
Et puis dans le fond, on pourrait dire que le féminisme devient un peu l'axe qui dirige tous tes choix, parce qu'après ça, parmi les films de ton top, il y a Portrait de la jeune fille en feu.
Oui, de Céline Sciamma. Là où quelque part j'attendais un peu Scorsese avec une fourche, ben, au contraire, j'avais vraiment envie d'aimer ce film de Céline Sciamma. En fait, je me suis jamais vraiment remis de son Tomboy, et c'est vrai que j'ai même trouvé qu'après ça, elle n'avait jamais atteint ce niveau de pudeur et d'écriture, mais sans prendre trop de place. C'est sûr que j'ai des griefs par rapport à ce film, dans le sens où on sent clairement que c'est la scénariste brillante qui sait écrire, mais là, en l'occurrence, il y a des moments où je trouve qu'elle prend un peu trop de place et on voit que c'est elle qui parle à la place de ses personnages. Mais en même temps, et il y a aussi ce côté un peu didactique, appuyé, je pense, pour bien faire comprendre les choses. Mais en même temps, je pense que c'est un film nécessaire, ne serait-ce parce que quelque part, ben, il s'intègre dans les films précédemment cités, c'est-à-dire sur la fin d'un monde. Et donc ici, c'est un peu la fin d'un... C'est aussi mettre en évidence le fait qu'il y a une multiplicité d'identités féminines et qu'il n'y a plus juste le seul regard d'un réalisateur ou d'un système pour le faire briller ou pour l'objectifier finalement. Et c'est évident que la sortie de Adèle Haenel par rapport à Christophe Ruggia s'intègre parfaitement là-dedans, puisque c'est aussi une façon de dire, bon ben, écoutez, sortons un peu du soliloque et de cette façon de parler nous pour nous, et juste vous signifier que maintenant vous avez du répondant. Donc c'est pas non plus quelque chose qui révolutionne complètement les choses, mais c'est une façon, je pense, de proposer en fait des points de vue, de proposer des regards et de sortir un peu du monopole un peu patriarcal,
oui,
finalement,
absolument.
Cinéma.
Et puis tu nous promettais de tricher en fin de programme. Est-ce que tu veux te permettre de le faire?
Ben, en fait, c'est que j'admets ne pas avoir pu voir les films de réalisatrices femmes que Céline Gobert et Charlotte Selbe ont mis dans leur top, donc The Farewell et le deuxième étant, je pense, Atlantique. Mais par contre, j'ai découvert en retard, après tout le monde, le film de Alice Rockwacker, donc Heureux comme Lazaro, que j'ai trouvé absolument... magnifique finalement, et qui est un peu, je pense que mes collègues reviendront là-dessus, mais qui est un peu aussi un remède ou un bonbon par rapport à l'espèce de morosité ambiante. C'est-à-dire, oui, on se retrouve comme à la fin d'un monde, qu'est-ce qui nous attend après, on ne sait pas trop, mais des films comme celui-là, et puis cette façon aussi de s'interroger même sur la place du cinéma et sur la façon dont on dirige nos acteurs, parce qu'elle travaille presque essentiellement avec des acteurs amateurs. Mais c'est aussi une façon de poser le cinéma et la relation normalement de pouvoir entre un réalisateur et ses acteurs comme quelque chose plus de l'ordre de la co-création, que je trouvais absolument fascinant. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande chaudement le cinéma d'Alice Rockwacker.
Ouais, parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, Sami Benhamar, tu es venu nous parler du film numéro 1 de l'année de 24 images, Parasite de Bong Joon-ho, que tu as qualifié, hors d'onde encore une fois, de film infâme. J'aimerais que tu nous en parles peut-être un peu selon cette perspective-là, parce que t'as quand même, tu t'attaques à un gros morceau en disant des choses comme ça.
Oui, absolument. C'est que j'ai eu une réaction qui est très personnelle face à Parasite. On s'entend que la réaction... face des films est nécessairement personnel. Mais Parasite est l'un de ces films qui se veut être une fable politique grand public, comme on en voit de plus en plus. Moi, ce qui me gêne dans Parasite, c'est que le message du film que j'ai compris est que d'une part, on a une population pauvre qui est composée de psychopathes trucidaires et d'autre part, une population riche qui a quelques travers. C'est ce que j'en conclus du film. Mais au-delà de ça, c'est la finalité du film est un espèce de discours de fixité de ces strates sociales. Un discours aussi sur l'état du monde actuel qui est très présent dans beaucoup de films, sur le sentiment que cette scission économique mondiale est de plus en plus marquée. Un espèce de défaitisme par rapport à ça. Et la conclusion de Parasite porte vers une espèce d'immobilité, en fait, de rêve impossible de changement de ces classes préétablies. Et moi, c'est un discours qui me dérange profondément. C'est un discours qui est... Ouais, c'est ça qui est catastrophiste, défaitiste, qui est le discours en réaction à Trump que tu évoquais précédemment, qui est cet état des lieux-là du monde. Et c'est pour ça que moi, je me dresse assez farouchement face à ce film, dans tout ce qu'il peut avoir de pertinent dans le discours qu'il amène. C'est un discours qui me dérange. Mmh. Et en même temps, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce film-là, c'est que les réactions politiques qui se sont établies en réponse à ce film-là, je les ai retrouvées à d'autres moments cette année. Je les ai retrouvés face au Joker aussi, par exemple.
Oui, absolument. En fait, dans le podcast de 24 images, on avait même décidé de dresser des parallèles entre ces deux films-là. Je pense que c'est absolument. Des films qui se complètent et qui se répondent, absolument.
Absolument. Et de la même manière, on pourrait dire que le Joker, politiquement, est une rébellion qui trouve ses racines, mais quelque part qui peut déranger certaines personnes. Et moi, je suis fasciné par cette dimension politique de plus en plus importante que prennent les films. On l'entendait précédemment avec The Irishman, mm-hmm. C'est que cette lecture politique, ces scissions, ces discours critiques qui se percutent sont de plus en plus présents et viennent en réponse à, j'ai le sentiment, d'une anxiété grandissante par rapport au monde, de nécessité d'établir des films qui sont des fresques sociales en réponse à différents éléments et à un état du monde actuel qui nécessite des confrontations, des discussions, des discours qui sont parfois fragiles. Tu vois. Sur un film comme le Joker ou Parasite, par exemple, c'est que de choisir de faire un film grand public et politique, c'est nécessairement choisir d'être maladroit, choisir d'avoir des avis qui vont venir se confronter. Et moi, cette effervescence-là, elle me stimule beaucoup. Je pense qu'elle est due notamment à un état des lieux du temps présent qu'on a retrouvé dans d'autres films importants de cette année, comme Ne croyez surtout pas que je hurle. Il y a une anxiété qui s'incarne dans la voix de ce personnage qui vit l'anxiété à travers le cinéma, qui vit l'anxiété, son anxiété très actuelle, son anxiété par rapport au monde, il le vit à travers les films qu'il voit. Moi, je l'ai retrouvé également dans Heimat is a Space in Time, qui là, cette fois-ci, une anxiété qui prend des racines historiques, peut-être. Au sens où, c'est ça, en retraçant dans ce film-là l'histoire de l'Allemagne et de l'identité allemande jusqu'au moment actuel et la dernière parole est celle du cinéaste, il y a une inscription du monde dans cet état de fragilité et d'anxiété où il n'y a plus de mur à faire tomber, mais il y a cette espèce de flou de complexité-là. Et là où je veux en venir en définitive, et je reviendrai sur mon positionnement farouche par rapport à Parasite, c'est que moi j'ai été extrêmement stimulé ces dernières années en voyant des films qui, à l'opposition de ce cynisme grandissant qui m'est très dérangeant, mais que je comprends tout à fait symptomatique de l'époque, mais qui m'est extrêmement dérangeant et qui me fait extrêmement peur, c'est qu'il y a d'autres films qui prennent le parti inverse, celui du militantisme actif, du cinéma comme réaction. Je l'ai noté notamment dans Villeneuve de Félix Dufour-Lapeyrière cette année, qui réécrit l'histoire, qui réécrit le référendum, et qui choisit de changer sa fin pour donner un espèce d'élan révolutionnaire qui peut sembler naïf, mais que moi je trouve extrêmement stimulant. Et je finirai peut-être en citant la conclusion de Godard dans le livre d'images.
Parce qu'on n'échappe jamais à Godard.
On n'échappe jamais à Godard, qui, après nous avoir présenté toute l'anxiété de notre monde actuel, tous les problèmes du monde arabe, tous les problèmes économiques, finit sur les dernières paroles qui sont les paroles que j'ai envie de voir au cinéma et que je pense qu'ils vont prendre de l'importance aussi. Ardent espoir.
Donc, pour la prochaine décennie, plus d'espoir, ça te ferait plaisir, Samy?
Oui, absolument.
Ben, parfait. Donc, un peu pour faire... C'est quand même dans la continuité. On a Cédric Laval, rédacteur encore... Évidemment, tout le monde qui est ici aujourd'hui est rédacteur à 24 images.
Bonjour, Alexandre.
Bonjour. Donc, toi aussi, tu as eu une année 2019 un petit peu apocalyptique, semble-t-il. Et puis, le film que tu as choisi de prendre comme fer de lance de ta réflexion, c'est un film un peu mal aimé que moi-même, j'ai quand même aussi apprécié, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, un film de zombies, tout ce qu'il y a de plus apocalyptique, on va se le dire.
Oui, tout à fait. Je ne vais pas remonter l'ambiance, mais je vais essayer quand même de terminer avec une note un peu plus positive. Mais c'est vrai que quand je suis revenu sur cette année cinéma, contrairement à certains sur cette table, j'aime beaucoup l'exercice du top 10 justement pour essayer de fermer les yeux puis de me rappeler les images qui me restent. Jim Jarmusch et son The Dead Don't Die qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions à l'issue de la projection, qui a été assez mal accueilli également par la critique. C'est un film qui pourtant reste dans mon année cinématographique et je me suis interrogé pourquoi. En fait, je pense que à rebours un peu de tout ce qu'on a dit sur ce film, de son aspect un peu comique, comédie de zombies, film de genre un peu qui reprend les codes de ce cinéma-là, mais en les détournant vers quelque chose d'un peu plus... en tout cas, quelque chose de comique. Moi, j'ai trouvé que c'était un film profondément désespéré. C'est peut-être le reflet aussi de ma vision à ce moment-là et de mon état d'esprit à ce moment-là, mais je trouvais que c'est un film, le film de quelqu'un qui me dit, voilà, c'est bientôt la fin.
Oui, absolument.
Et soyons affrontons cette fin-là, cette fin du monde comme un dandy, et pour moi c'est un dandy qui accepte que la fin du monde est proche et qui nous lance ce message-là à travers une forme faussement légère, faussement comique, mais pour moi c'est un film profondément désespéré. Et je me rends compte que dans mon top 10, les 5 des 10 films que j'ai retenus sont des films qui me hantent à travers l'anxiété effectivement qu'ils ont dégagée, mais aussi la beauté du geste cinématographique qu'ils ont posé. Et tous ces films ont en commun, je pense, une certaine forme de rapport à la menace qui hante un monde condamné à différents niveaux, différents aspects. Jarmusch, bien sûr, c'était l'aspect la menace de l'espèce humaine, menacée par ces zombies surgis du néant. Je le rapprochais aussi de Us, film de Jordan Peele, qui m'a aussi beaucoup hanté. Peut-être moins abouti que Get Out, en termes cinématographiques, en termes de scénario, mais en fait qui m'a beaucoup plus habité que Get Out. Et j'ai trouvé que là aussi, la métaphore politique qu'il utilise à travers les codes du film d'horreur est particulièrement puissante, puisque, je ne rentrerai pas ici, Bruno, tu as écrit un bon papier, un très bon papier sur l'horreur politique et sur Get Out et Us. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est comment c'est à chaque... tous les riches de cette terre, tous les privilégiés de cette terre, à chaque privilégié de cette terre correspond un damné social, mais un damné, on pourrait élargir aussi l'image d'un point de vue écologique. Pays occidentaux, dans le confort de notre climat qui ne risque pas trop d'être dérangé, sinon gagner quelques degrés de plus au Canada, certains sont pas mal contents de cette situation-là, finalement correspondent dans d'autres pays des gens qui, eux, sont en train de mourir à cause des dérèglements que nous avons créés. Et je trouve que Us incarne cette métaphore politique-là de manière très forte. Donc c'est aussi un film qui est resté pour moi. Film aussi qui m'a hanté de manière alors à la fois poétique et puis également troublante, c'est le Ad Astra de James Gray. Alors bon, je suis un James Grayfield depuis le début, donc je cède peut-être à cette facilité-là, mais c'est un film où la menace prend une dimension cosmique au début, puisque la Terre est menacée par des décharges électriques venues en il faut remonter à la source, mais c'est bien sûr aussi un film qui se concentre sur l'intime, sur la relation père-fils.
et sur, là aussi, une dernière scène et des derniers propos du film qui sont venus me chercher dans tout ce qu'ils peuvent impliquer sur le rapport à une certaine fin du monde ou à un certain avenir ici très rapproché. Mais c'est un film qui, pour moi, est encore hanté de cette menace. Puis, dernier film également, je vais passer plus rapidement, puisque la menace aussi, elle a été sociétale, elle a été sociale, et puis tu as évoqué, Samy, les films Parasite et Joker. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur ces films-là, le discours catastrophiste, c'est vrai, la fixité des strates également. Pourtant, pour moi, c'est des films qui restent dans mon top 10, parce que c'est des films qui ont une dimension radioscopique de notre société que j'ai trouvé totalement en phase avec la manière esthétique dont ils l'ont mise en scène. Donc c'est des films qui sont complets en soi dans leur manière de construire leur discours et d'avoir un impact sur le spectateur que je suis. Je suis aussi d'accord qu'ils ne répondent pas à une anxiété, ils ne nous donnent pas des solutions pour sortir de l'impasse. Donc en ce sens, c'est vrai que ce ne sont pas des films militants. Ce ne sont pas des films qui sont actifs dans ce sens-là, mais ce sont des films qui ont une puissance d'impression, je trouve, sur la psyché du spectateur, qui va bien au-delà de beaucoup d'autres films qui dressent un état des lieux de la société d'aujourd'hui. Donc ça reste pour moi aussi des films de mon année cinématographique. Je disais juste que je voulais terminer quand même sur une note un peu plus positive, parce que finalement, au bout de cette année cinéma qui me hante de manière un peu anxieuse à travers différentes thématiques que je viens d'évoquer, reste que le film que je retiens de mon année, d'autant plus inattendu que je ne m'attendais pas du tout à tomber en amour avec un film russe en noir et blanc sur un groupe rock plus ou moins connu des années 80, c'est L'Étau de Kirill Serebrennikov, que je trouve l'antidote parfait alors à tout ce que je viens de décrire. Donc si vous avez été anxieux pendant cette année cinéma, louez L'Étau, qui est à mon avis un des films les plus jouissifs en termes formels, enfin le plus jouissif pour moi de cette année cinématographique, qui justement fait aussi un doigt d'honneur à toutes les dictatures ou toutes les sociétés un peu engoncées dans une sorte de politiquement correct, puisque bon, on sait que le cinéaste a été assigné à résidence par Vladimir Poutine, et malgré cette assignation à résidence, il a réussi à produire une œuvre d'une liberté que je trouve absolument farouche. Et en plus, c'est une œuvre d'un romantisme très doux, pas du tout dans le romantisme déchirant, je t'aime, je déteste, les traits. C'est un film sur un triangle amoureux, mais un triangle amoureux qui se noue et se dénoue avec une douceur qui est absolument prodigieuse. Donc voilà, pour vous guérir de l'anxiété de cette année 2019 et peut-être de la décennie qui s'ouvre, je vous donne l'antidote, L'Étau de Kirill Serebrennikov.
Parfait, mais merci beaucoup. Cédric Laval. Donc Bruno, on revient à toi pour parler de ton film de l'année, celui tu m'as écœuré toute l'année pour que j'écoute iMath de Thomas Eisa, et je ne l'ai toujours pas fait, donc je vais te laisser en parler, ouais. Parce que je n'ai pas écouté ton conseil, je suis désolé. Mais j'invite tout le monde à écouter donc le conseil de Bruno Dequin. Pourquoi iMath comme film de l'année 2019?
Ouais, c'est vrai que tu ne l'as pas écouté, puisqu'il s'appelle iMath is a Space in Time. Donc c'est le titre complet. C'est un film qu'on a présenté au RIDM, qui est un essai documentaire de à peu près 4 heures.
Ah, c'est pour ça que je ne l'ai pas écouté.
C'est pour ça que tu ne l'as pas écouté tout de suite.
Il fallait que je fasse fitter mon cap. Ouais, ouais. Bon, ok, parfait. Je lis mon excuse, c'est bon.
Qui est en fait, pour expliquer brièvement, c'est donc Thomas Eisa a repris les correspondances intimes de membres de sa famille depuis son grand-père jeune, donc un petit peu avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à de nos jours. En fait, ça se termine sur les propres propos du cinéaste lui-même. Et donc au son, il lit ces correspondances-là. Et on traverse un siècle de l'histoire de l'Allemagne, et à l'image, on voit des documents d'archives de temps en temps, et même le plus souvent des images en noir et blanc de l'Allemagne contemporaine. Donc c'est pas un film qui est forcément évident d'approche. La raison pour laquelle le film m'a marqué, on parle depuis tout à l'heure de films justement à contenu politique ou de films qui... Et là, je dois admettre une chose, c'est que j'ai toujours considéré que quel que soit l'aspect un peu divertissant que je trouve dans une part du cinéma à visée politique, j'ai la plupart
du temps tendance à le trouver un peu con. Un peu con pour différentes raisons. La plupart du temps, parce qu'un grand pan du cinéma a un discours politique que je trouve extrêmement simpliste et universaliste, du type le discours que je peux voir notamment dans Parasite, que j'aime bien, le Joker, que j'aime moins, mais pour moi, c'est pas des films qui me révèlent quelque chose du monde, en fait. C'est des films qui portent un constat très général. Bon, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les exclus, qui a tendance à pointer du doigt énormément, souvent, et encore une fois, de façon assez binaire. Et ce que j'aime la plupart du temps, c'est au contraire un cinéma qui va essayer de complexifier les choses, un cinéma qui essaie de me faire comprendre que chaque personne est nécessairement influencé, mais de façon très, 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 très spécifique par les conditions à la fois historiques, sociales, politiques, dans lesquelles les gens évoluent. Et Heimat porte énormément là-dessus. Heimat porte sur à quel point le discours à tout niveau, en fait, nos pensées à tout niveau, qu'elles soient intimes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient artistiques, sont teintées par les conditions dans lesquelles elles ont été pensées. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important. C'est un film qui se termine, entre autres, pour donner un exemple, c'est un film qui se termine sur la crise des migrants en Europe, entre autres, qui questionne ça, qui questionne l'idée de territoire, mais qui le fait de la façon la plus spécifique, intime et personnelle possible. Et pour moi, c'est le seul moyen de faire un cinéma que je considère réellement politique. Le reste, c'est amusant. Je veux dire, il y a beaucoup de films politiques qui pour moi tombe dans la catégorie de films politiques, la plupart du temps de gauche bien pensant. C'est bien, je veux dire, on sort, on revient, on fait « Ah ouais, c'est vrai, les riches sont vraiment, prennent tout le pouvoir, on est oppressé, on est complètement déprimé, on voit pas d'avenue, on voit pas quoi que ce soit. » Mais en même temps, outre, parce que je partage un peu avec Samy cette idée de oui, à un moment donné, on va en avoir combien là, des films de constat d'impossibilité de penser un nouveau monde, etc. Mais pour pouvoir penser un nouveau monde, au-delà de « mettons des bombes, c'est le fun » ou « allons briser deux, trois trucs », il faut le réfléchir, ce monde. Il faut le réfléchir d'une façon qui n'est pas aussi binaire, qui n'est pas aussi en surface que ce qu'on voit souvent. Et ça, je trouve qu'il y a rares sont les films qui le font. Rares sont les films qui questionnent à ce point-là et qui questionne aussi en se questionnant soi-même. Il y a beaucoup de films se questionnent pas eux-mêmes. C'est-à-dire, on voit beaucoup des cinéastes qui portent un constat sur le monde comme s'ils étaient un peu en position un peu surplombée, un peu en retrait, position un peu surplombée par rapport à ce monde. Ah voilà, je l'observe. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose. Moi, je trouve que après avoir vu Heimat, vraiment, c'est un film sur lequel je me disais oui, il faut totalement remettre en perspective l'histoire du XXe siècle, il faut remettre en perspective l'histoire des migrations, il faut remettre en perspective notre rapport entre identité et territoire. Ça m'apporte beaucoup plus de choses que « mon Dieu, on est dans une impasse, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ah, peut-être éventuellement tout péter ou se révolter. Il y a quelque chose que... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout péter ou se révolter, au contraire, mais tout péter ou se révolter sans aucune réflexion au préalable n'est qu'un geste c'est tout aussi désespéré et désespérant que les constats qui sont posés et donc pour moi Heimat c'est pas juste le film, c'est pas mon film de l'année là, je pense que c'est mon film de la décennie, c'est pour
tu
moi
boucles la boucle en fait hein,
ouais, ouais, non mais quelque part oui parce que je trouve que c'est un de ces rares films qui fait ça et c'est quelque chose que justement je vais en venir là parce que je me dis bon il va falloir qu'on le fasse ce numéro sur justement c'est qu'est-ce que la politique au cinéma réellement, quels sont les différents, et je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça et c'est quelque chose qui me questionne beaucoup parce que forcément je programme aussi des documentaires dans la vie donc à chaque fois je me pose ces questions-là par rapport à certains documentaires et il n'y a rien que justement le documentaire militant en tant que tel est un genre documentaire envers lequel j'ai personnellement peu d'affinité parce
qu'il prêche aux convertis notamment je pense.
Bon, il y a de ça, mais en même temps, c'est pas tant le fait de prêcher aux convertis, parce qu'on s'entend que, quoi qu'il arrive, qui va voir ces films dont on parle depuis tantôt, tu sais, en grande partie. En grande partie, c'est des convertis. Il y a peu de personnes, je vois assez peu de personnes aller voir Parasite et faire « Oh mon Dieu, j'avais jamais pris conscience des tensions sociales ». Et je pense qu'il n'y a personne qui a une révélation en voyant Parasite, là, les trois quarts du temps. Donc pour moi, ce n'est pas tant ça, c'est plus les différences entre la visée d'un film. Par exemple, le film militant, souvent, va peut-être avoir tendance à simplifier volontairement les choses pour une visée qui est noble, hein, je veux dire, ceci étant dit, là. Mais qui parfois me rend mal à l'aise. C'est une question que je me posais. Samy parlait justement de Godard qui représentait un peu qui représentait le monde arabe et tout ça, qui réfléchissait sur l'état actuel du monde arabe. Et combien de films avons-nous vu sur la crise des migrants, sur les horreurs actuelles du monde arabe, mais qui sont des films souvent, malheureusement, de pur militantiste du type je vais te faire pleurer vraiment sur cette situation-là, tu sais, toi, spectateur privilégié blanc. Et j'avoue que ces films-là, une fois sur deux, me posent quand même de gros problèmes. J'arrive pas à voir, je comprends leur finalité, oui, effectivement, je veux dire, tu vas. Mais en même temps, je pense que le cinéma a une vraie capacité à nous faire voir les choses différemment et l'utilise peut-être pas suffisamment souvent.
Ouais. Ben c'est peut-être de penser le film comme un espace de réflexion où la réflexion peut se passer devant nous à l'écran en tant que spectateur. On participe un peu plus activement à la réflexion, on est un petit peu moins devant un objet abouti.
Et je pense qu'on participe d'autant plus quand le film est fait par quelqu'un qui ne s'exclut pas de l'équation. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on parlait tout à l'heure de « Ne croyez surtout pas que je hurle », de Franck Beauvais, et il y a de ça aussi dans Ne croyez surtout pas que je hurle, qui est un film qui est bon, oui, relativement désespéré lui aussi, mais une des principales vertus de Ne croyez surtout pas que je hurle, c'est que le cinéaste se met en cause, il se met en cause lui-même, il met en cause son propre rapport au monde, il a aussi différents niveaux d'ironie qui jouent dans le film, là. C'est pas un film qui est strictement déprimant. Mais je pense que c'est extrêmement important de regarder ça, de regarder que les cinéastes aient un positionnement qui soit beaucoup plus autocritique. Le cinéma demeure en très grande partie fait par des gens privilégiés, ne serait-ce que par la nature même du cinéma, qui est un objet industriel qui coûte cher. Regardons qui font les films. La plupart du temps, c'est quand même des gens justement qui ont... malgré leurs bonnes intentions, cette position un peu surplombante. Et j'avoue que moi, justement, de Dead Don't Die, le côté dandy Jarmusch qui regarde le monde s'écrouler avec un petit sourire désabusé en coin, j'ai vraiment à peu près juste envie de lui foutre des baffes à Jarmusch là, dans ce film-là. C'est vraiment quelque chose qui m'irrite profondément dans Dead Don't Die. Là. C'est peut-être juste... Je pense que ce qui a plus à Cédric dans le film ou qui l'a intéressé. Moi, au contraire, c'est quelque chose qui m'irrite, mais il représente vraiment exactement ce qui m'irrite. Ce positionnement d'un cinéaste qui est foncièrement privilégié, normal, je ne lui reprocherai pas. Jarmusch a une très belle carrière, ça va bien, il a un bel appartement à New York, il fait ce qu'il veut. Il est un peu désillusionné, mais il le fait justement, cette distance du cinéaste privilégié m'irrite. Et Heimat, je trouve... arriver à percer certains de ces éléments-là. La particularité, juste pour finir très brièvement, là, c'est que ce que je trouve dommage par rapport à Heimat et ce que je trouve dommage par rapport au cinéma contemporain, c'est qu'effectivement, c'est un film qui... Où est-ce que tu peux voir Heimat ? Grande question. C'est le genre de film qui n'est présenté malheureusement qu'en festival. Ce que je regrette aussi souvent, c'est que ce genre de film... Moi, c'est exactement le genre de film que j'aimerais voir plus en sortie commerciale. J'ai pas besoin... d'avoir une sortie commerciale à la limite de Star Wars quelque part. Je peux le voir à peu près n'importe où, dans n'importe quel contexte, ça va aller. Alors que c'est vrai que je trouve un peu dommage que les films qui sont les plus demandants de nos jours sont les films que tu n'as à peu près aucun autre choix, à moins d'avoir tes petits contacts de personne à personne, mais de les voir dans des contextes festivaliers où tu accumules, t'sais, les films. Et quand tu es en mode accumulation de films, est-ce que le premier truc que tu veux faire... c'est de te dire « Oh, je vais aller regarder le film essai de 4 heures allemand dont Bruno vient de parler. » Parfois, je peux comprendre que ben, non, peut-être pas. Là. Si tu t'en es tapé 3 dans la journée, ton quatrième sera peut-être pas celui-ci. Et tu peux peut-être avoir tendance à vouloir enfiler de bonnes vieilles pantoufles De temps en temps, ce qui est ma transition subtile.
Mais je te promets d'écouter iMath quand même en 2020. Parce que, mais en fait, ma transition subtile, mais oui, vieille pantoufle, mais c'est pas juste une affaire de vieille pantoufle. Mon choix se porte sur un film que j'ai. Est-ce que je l'ai aimé tant que ça? J'en sais trop rien. Mais c'est The Beach Bum de Harmony Korine, qui est un film. C'est pas Spring Breakers, on va se le dire. Je pense que quand on regarde la décennie 2010, on se dit Spring Breakers, film majeur de la décennie. Puis après ça, The Beach Bum, c'est comme un peu l'espèce d'arrière-pensée un peu bizarre d'Harmony Korine. C'est comme. Oui, c'est un peu la suite logique. En même temps, c'est définitivement un film de dandy désabusé, s'il en est un, à 100%. En même temps, je trouve que c'est un film qui a une certaine générosité dans sa manière de représenter des éclopés. Il y a un côté. C'est juste que je me rends compte, plus ça va. Je veux dire, oui, j'ai envie de voir les films Essai de 4 heures. Je veux pas avoir l'air non plus d'un mauvais critique, mais au moment de faire l'exercice du top 10, moi, puis Cédric l'a mentionné, mais moi, j'haïs ça, faire des top 10. Ça me rend malade, ça me donne mal. Ça me fait mal à ma cinéphilie d'avoir à m'assujettir à ça. Évidemment, à la fin de l'année, tout le monde me dit « il faudrait que tu fasses ton top 10 ». Je suis comme « urgh ». Puis souvent, mettons le top 5, je me dis « ok, ça a de l'allure ». Là, je suis comme dans les positions 6 à 10, puis je commence à me rendre compte que est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est les meilleurs films que j'ai envie de mettre à cet endroit-là? Pas tant que ça. Les films que j'ai envie de mettre, justement, c'est peut-être des films qui sont pas si bons que ça, mais qui sont représentatifs de ma personnalité. Puis c'est là que je trouve que ça clash vraiment avec l'exercice du top 10, puis j'ai plus vraiment envie de m'y prêter. C'est de commencer à aller à la course au « c'est quoi le meilleur film? » Je trouve que en fait, c'est que ça finit par donner le problème des tops consensuels. Je pense il naît beaucoup de cette idée-là qu'on est en train d'essayer de faire le top 10 des meilleurs films. Parce que, exemple, un film comme « Parasite », pour moi, c'est un film qui gagne naturellement au jeu du top 10 parce que c'est un film qui a à peu près tout le monde qui a une paire d'yeux puis une capacité à apprécier quelque chose de bien construit va dire ce film-là est très bien construit, c'est un film tight. En même temps, est-ce que c'est un film qui a une personnalité particulièrement forte? Non, c'est juste le gagnant au jeu d'être un film très bien. Je veux dire, il y a plein de belles choses dans ce film-là. Selon moi, je suis vraiment moins dur que Samy à son égard, par exemple. Mais c'est ça. Puis je veux dire, The Dead Don't Die, c'est un autre exemple d'un film qui, pour moi, je veux dire, est-ce que c'est le pire film que Jim Jarmusch a fait dans sa carrière? Fort probablement. Est-ce que c'est un film que je trouve qui m'a plus plu pour plein de raisons que plein d'autres films que j'ai vus qui étaient meilleurs en 2019? Absolument. Je veux dire, pour moi, c'est prendre des nouvelles de Jim Jarmusch et voir comment il va. Puis il va vraiment, vraiment, vraiment pas bien en ce moment, Jim. Et je trouve que c'est comme presque touchant de le voir s'effondrer après. Je trouve que pendant toute la décennie, Jim Jarmusch a fait des films quand même assez pleins d'espoir, des films sur se poser la question de dans ce monde-là. Puis je trouve, c'est là que je trouve que tes accusations par rapport à ce film-là sont un peu injustes parce que si on remet ce film-là dans le contexte de l'œuvre de Jarmusch, je veux dire, Jarmusch, ça fait depuis une décennie qu'il se pose la question de où est-ce qu'on peut survivre, où est la place des marginalités dans ce monde-là. Puis je trouve qu'il il a fait plusieurs. Patterson, c'est un film sublime sur ça. Je veux dire, je trouve aussi que Only Lovers Left Alive, c'est un très beau film sur ça. Je veux dire, c'est un film qui. Je veux dire, Limits of Control, pour moi, c'est un peu le début du Jarmusch politisé. Puis de le voir tout d'un coup, c'est comme hey Jim, comment ça va? Ça va vraiment pas bien. Là. Genre, tout d'un coup, là, ses tentatives d'avoir de l'espoir, c'est ça. C'est comme un film somme sur genre oui, j'ai essayé de chercher des endroits où me cacher, oui, mais il y en a plus tant que ça. Où est-ce qu'il reste? Ils sont où ces espaces-là? Puis je trouve qu'à la limite, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans The Beach Bum. The Beach Bum, c'est un film sur. C'est des gens hyper privilégiés. Mais Korine est parfaitement conscient du fait que c'est un artiste privilégié qui peut essentiellement chier, mettre ça sur la table. Il y a quelqu'un qui va distribuer. Je veux dire, Trash Humpers, c'était littéralement ça. Il va trouver une distribution pour faire ça. Puis je veux dire, il est parfaitement conscient de son statut d'artiste privilégié. Puis il le remet en question d'une certaine manière à travers ce film-là. Tu sais, je veux dire, son personnage de poète, est-ce que c'est un bon poète? Non, absolument pas. Mais je veux dire, il y a toujours des gens pour le trouver brillant, peu importe à quel point il s'écarte de ça. Puis je trouve que c'est comme, il y a une remise en question à travers ça que Korine, qui est un cinéaste, que je veux dire, j'ai toujours, ça fait depuis Gomo que je trouve que Harmony Korine, c'est un cinéaste vraiment attachant, vraiment divertissant, qui fait des films, je veux dire, j'aime mieux voir un mauvais Harmony Korine qu'un bon film de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéastes. Puis c'est un peu ça ma conclusion de l'année. Ça me tente pas vraiment tant que ça de me prêter au jeu. Donc non, j'ai pas remis de top 10, Bruno. Je suis désolé. Puis je suis désolé de vous avoir assujetti au jeu de me parler de vos films de l'année. Je trouve que c'est un jeu pervers et de très mauvais goût. Puis c'est un tueur de cinéphilie sincère, à la limite, je trouve. Mais quand même, merci d'avoir été... Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin pour vous tous et vous toutes qui êtes à la maison. Puis merci à tout le monde qui est autour de la table d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu. Donc on va sûrement se revoir en 2020 pour plein d'autres podcasts 24 images. Il y a plein de gens dont c'était la première présence derrière le micro et j'espère vous revoir. Donc Bruno Dequin, définitivement pas ta première présence, probablement pas ta dernière. Charlotte,
j'espère pas, on verra.
Charlotte Bonmatin-Moulins, merci d'avoir été là. Cédric Laval et Samy Benhamar. Et bien sûr, à vous tous et à vous toutes, merci d'avoir été là jusqu'ici et à l'année prochaine. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.